comme l'île est majoritairement, très majoritairement musulmane, alors que le continent est beaucoup plus hétérogène avec, on va dire, en gros, hein, 50% de musulmans, peut-être 40% de chrétiens et puis 10% d'animistes. Et donc, cette cristallisation politique, petit à petit, s'est traduite par une instrumentalisation du religieux. Et je crois qu'il faut le lire comme ça, c'est-à-dire que les violences qui ont été faites à l'égard des prêtres, c'est pas les prêtres qui étaient visés, c'est pas la religion catholique, mais c'est qu'en visant, en ciblant la religion catholique, on imagine aussi qu'on cible le continent. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre aujourd'hui pourquoi on en est arrivé là, parce que le parti toujours opprimé s'est radicalisé, parce qu'il y a une islamisation aussi un peu rampante de ce parti, qui n'a pas trouvé d'autres moyens pour s'exprimer, que la violence et qui se développe effectivement depuis ces dernières années.
Le quotidien La Vie parle d'un fondamentalisme musulman qui se développe. Est-ce que le contraire peut arriver? L'instrumentalisation d'un conflit politique à des fins religieuses, est-ce que c'est un risque?
Je ne suis pas sûre qu'on en soit là. Je pense que pour l'instant, on instrumentalise le religieux pour arriver à l'objectif que partage une grande partie des Zanzibaris, c'est une autonomisation de l'île.
Est-ce que c'est vraiment partagé par tous les habitants de Zanzibar?
C'est là aussi très partagé. Je pense qu'il y a des grandes différences générationnelles. Les jeunes sont plutôt pour une autonomisation, une indépendance. Il y a une grosse différence entre les îles, parce qu'on parle de Zanzibar, mais c'est un archipel. L'île principale est plutôt attachée à son maintien, on va dire, dans l'union tanzanienne, alors que l'autre île de Pemba, qui n'a pas tout à fait la même histoire, elle est beaucoup plus pour l'indépendance. Donc il y a des tiraillements intergénérationnels entre les îles. Je pense quand même que la population est assez divisée sur la question.
On ne peut pas comprendre ces violences sans s'intéresser à l'histoire du pays les 40-50 dernières années.
Zanzibar est indépendante en 63 et en 64, il y a un coup d'État qui va conduire Zanzibar à être intégré un peu contre son gré dans la République unie de Tanzanie. Et donc cette intégration a été vécue comme une annexion par des Zanzibaris qui étaient dans une large mesure originaires du Yémen, d'Oman, avec un métissage très, très important, avec effectivement une grande homogénéité religieuse, puisque Zanzibar est musulmane à 99%, quelque chose comme ça. Et donc il y a eu, à partir de là, une stratification très très forte, opposant, alors c'est très très schématique bien sûr, mais d'un côté opposant les Arabes, on va dire, au sens très très large du terme, et donc plutôt les Zanzibaris, et de l'autre côté, des populations d'origine africaine qui finalement ont fini par prendre le pouvoir à Zanzibar. Donc le coup d'État en 64, ce sont les populations pro-africaines qui prennent le pouvoir, une sorte de revanche aussi sur les Arabes qui étaient les anciens négriers, parce qu'il faut aussi comprendre que Zanzibar était une plaque tournante du commerce d'esclaves pendant très longtemps. Et donc, une sorte de revanche du continent sur l'île. En tout cas, ça a été ressenti comme tel. Et jusque dans les années 90, donc c'était une dictature, avec un président imposé par le continent, donc pro-africain, et qui a muselé pendant très longtemps une opposition majoritairement arabe.
Et ça s'est transformé en conflit politique.
Ça a cristallisé finalement le conflit. Et au fur et à mesure qu'il y a eu une tentative très très légère de démocratisation en autorisant le multipartisme, les revendications se sont faites de plus en plus fortes avec des élections, élections qui ont été systématiquement truquées et qui ont porté toujours au pouvoir le même parti pro-continental.